Le retour de Radio X.
C'est de la snoute.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Actualité scientifique.
La microbiologie, la chimie, la science en général.
Avec Marc Hamilton, microbiologiste.
Que ça va faire du bien, M. Hamilton. On parlera pas de politique.
Hey, merci d'être là.
C'est fun. J'espère que vous m'attirez l'attention autrement aujourd'hui, mais en parlant pas de politique.
Ben non, j'avais mis la toune « I miss you ». On s'ennuie de toi, Marc.
Oui. Ah ben, Colin, ça, c'est le fun d'entendre quand même.
Des fois, les trois semaines, c'est long, Marc.
J'avoue que c'est pas toujours... Mais on mène des vies de fous. Fait qu'on n'est pas toujours disponible. Fait que c'est sûr que quand je viens, j'essaie de rendre le moment que j'étais avec vous le plus agréable possible avec des faits divers sur la science qui fait en sorte qu'on déroge bien souvent de la politique. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire élire personne. Je suis là pour vous changer les idées.
Ah, tu ne veux pas nous convaincre d'apprendre notre amour, toi?
Non. Mais moi, écoute, je reste dans mes quartiers, là, ce temps-là.
Oui, c'est ça. Et dans ta ville, il n'y a pas de tramway.
Exactement.
Il n'y en aura pas non plus.
Moi, je suis à Shannon, petite ville. À peu près 1500 habitants, on a la sainte paix.
Qu'on va partir d'un dossier politique pour parler du Tylenol.
Ben Colin. Ben oui.
À chaque semaine, Trump sort un sujet pour toi.
Écoute, c'est sûr que ça fait travailler le monde. Hein? Je veux dire, lui, quand on parle de la conspiration, puis des oui-dire, puis... Tu sais, lui, là, il a sorti une bombe, quoi, c'est la semaine passée, en disant que les Tylenol, une femme qui en prend durant la grossesse, pouvait affecter le fœtus, qui fait en sorte qu'il pourrait développer l'autisme à la naissance, parce que la femme a consommé des acétaminophènes, on s'entend, là, Tylenol, c'est une marque. Et ça, j'ai été voir, autrement dit, d'où est-ce qu'il avait pris. C'est une magazine qui s'appelle Environment Health. Et il y a une étude qui a été faite là-dessus, mais la manière que ça a été monté, la manière que ça a été archivé, il n'y a rien que concrètement scientifique on peut se fier. Donc, il n'y a pas rien qu'on peut valider sur cette étude-là qui fait en sorte qu'on peut conclure hors de tout doute que l'acétaminophène va créer l'autisme.
C'est grave ce qu'il a fait, là. Ça a remis des femmes en question. Des femmes qui ont accouché d'enfants autistes se sont dit « Hey, c'est de ma faute ».
Oui, puis pas seulement ça, c'est le Tylenol, on s'entend que pour une femme enceinte, la raison qu'elle prenne des Tylenol, bien souvent, c'est parce qu'elle va avoir un petit virus, elle va faire de la fièvre. Une femme enceinte qui fait de la fièvre a beaucoup plus d'effets secondaires pour elle et le fœtus que prendre du Tylenol. Il n'y a aucune étude qui dit que si on prend du Tylenol à la dose recommandée, c'est sûr que là, si vous faites, si la dose est, mettons, 4 par jour, vous en prenez 8, 12, 15, 20 par jour, là, on s'entend, c'est une intoxication.
Puis, oui, c'est dangereux pour le foie.
Le foie, puis ça peut recréer des retards de croissance du fœtus parce que l'acétaminophène peut diminuer, du moins, le développement intra-utérin du fœtus. Il y a aussi certaines études, bien encore là, je ne les ai pas vraiment toutes regardées dans le détail.
Ça mais eux, ils se sont-tu basés sur des études? Tu dis que ça n'existe pas.
Le quoi, ça?
Oui, le Tylenol là, pour les
Trump
femmes enceintes. Ouais.
Mais c'est parce que lui, il voulait livrer une promesse, là, parce qu'il avait mentionné ces propos-là dans la campagne électorale, là, qu'il allait nous rapporter des informations durant le mandat. Bon, on dirait qu'il est arrivé avec une réponse.
C'est arrivé une réponse avec son chum Robert Kennedy. Carrément à champ gauche. Que toute forme de vaccin va créer de l'autisme, que le Tylenol va créer de l'autisme. Écoutez, l'autre jour, quelqu'un me posait une question. Il dit, Marc, y a-tu plus de gens autistes que quand on était jeunes? T'sais, des fois, il me semble que des autismes, on entend parler beaucoup. Mais écoutez, la différence entre aujourd'hui et hier, c'est notre niveau, notre capacité d'identifier le spectre de l'autisme. En tant que tel, aujourd'hui, les gens sont capables d'identifier. Parce qu'il y a des gens qui ont un spectre très léger d'autisme, puis ils fonctionnent très bien, puis ils vont identifier autisme. Puis il y a des gens qui sont vraiment autistes, ou est-ce que c'est des gens qui sont vraiment limités? Mais à quelque part, il n'y en a pas moins. Dans l'ancien temps, là, ben, l'ancien temps, 50 ans en arrière, où est-ce qu'il y avait toujours une personne qu'on disait qui était différente dans la famille, on disait qu'elle était infirme, on disait. Mais l'autisme était ça aussi, là.
C'est quoi les caractéristiques d'un autisme léger?
Bien souvent, ça commence. C'est un spectre qui est très, très large. Tu sais, je ne dirais pas que quelqu'un qui est TDAH peut être autiste, mais tu sais, il y a des gens qui ont des syndromes d'Asperger, des gens qui vont être des gens qui vont avoir une concentration limitée ou une concentration fixe. Donc, tu sais, je ne suis pas un expert en déterminer que c'est quoi les spectres, mais on sait qu'aujourd'hui, les gens peuvent, par des personnes spécialisées, diagnostiquer dès le jeune âge est-ce que mon enfant est dans un des spectres de l'autisme. Puis ça peut être une personne qui va très bien réussir sa vie ou des gens qui vont avoir des limitations. Mais dès qu'on les encadre jeunes, on est capable de faire quand même des très, très belles choses avec les gens autisme. Et on apprend à vivre avec. Et même moi, dans mon entreprise, on a des gens autistes qui travaillent chez nous, qu'on est très fiers d'utiliser, qui font un excellent job. Puis ça paraît pas. Puis,
peut-être même plus fiable que certains.
Ben, en tout cas, ils ont des très belles qualités. Puis moi,
il y en a peut-être ici. Moi je me suis. Tu sais, il y a tellement de spectres, il y a tellement de degrés.
Très
oui.
Large.
Puis il y a le syndrome d'Asperger, il y en a plein, là. Donc.
Mais pour vous dire, c'est que l'autisme a toujours existé. C'est pas une nouvelle maladie. On entend parler de plus en plus aujourd'hui parce qu'on est capable de diagnostiquer très, très jeune. Mais souvent, les parents vont se rendre compte qu'à 3 ans, mon garçon, il n'est pas comme une autre personne de la même âge. Ils vont aller voir est-ce qu'il fait un TDAH, est-ce qu'il y a de l'autisme. Ils vont le diagnostiquer jeune, ils vont le traiter en conséquence. Puis il va mener une bonne vie. Mais quand dans le temps de nos grands-parents, quelqu'un qui était autiste, là, c'est comme, ben, il est comme ça. Il est comme ça. T'sais, puis il va faire sa vie. T'sais, puis des fois, il dit, ah, il est un peu infirme ou ces choses-là. Mais il ne faut pas penser que l'autisme est une nouvelle maladie. Puis c'est pas nécessairement une maladie qui est en recrudescence due à un paquet de facteurs que l'être humain a mis en branle depuis les 20 dernières années. C'est juste qu'aujourd'hui, on entend plus parler parce qu'on en parle plus aussi. Mais il reste que quand je vois des conneries dire que l'acétaminophène va causer de l'autisme, imaginez-vous la bombe atomique que ça fait dans la communauté qui va interpréter ça à sa manière pour dire « Hey, moi, j'ai pris 2 de Tylenol, mon enfant, il va me sentir, comme tu disais, Mel, il va-tu se réveiller, il va-tu avoir de l'autisme? »
Ça crée un débat, puis exactement. Le monde qui mange d'un bar et comprenne pas.
Donc, tu sais, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas d'études fiables, encadrées, spécifiques pour ça, avec des dosages. Une étude scientifique va être, mettons qu'on prend 800 femmes enceintes, puis on va leur administrer volontairement une quantité X calculée d'acétaminophène à tous les jours, à tous les 2-3 jours pendant 9 mois de temps, et on va regarder la croissance des enfants par la suite. C'est une étude qui va prendre plusieurs années à arriver à une conclusion. Et non pas, ben moi, je pense qu'il y a sur 800 femmes qu'on a pris ici et là, sans savoir le dosage, ont été suivies par
c'est
les
ça,
médecins.
Tu
et
peux
non
pas
pris.
Te fier à rien.
Et là,
bang,
il ouais, mais qui... faut que tu regardes le phénomène génétique aussi, faut que tu regardes, y a-t-il des antécédents familiaux. Une étude, là, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération que juste dire, tomber aux conclusions, puis dire, hey, ben qu'est-ce que tu as pris pendant 3? Oh, j'ai pris des Tylenol, mais t'as-tu dit qu'est-ce qu'elle prenait d'autre chose encore en parallèle? On ne sait pas. Donc, une étude. C'est très, très compliqué à faire si on va arriver avec des conclusions.
Ben moi, je me disais peut-être qu'ils ont comparé des pays où il y a peu de consommation de Tylenol, que ah ben là, le taux d'autisme est plus bas, plus haut, tu sais, mais c'est pas ça, là?
Non, pas du tout. Okay. Pas du tout.
Autre sujet qui est très intéressant, le cancer colorectal détecté de plus en plus chez les jeunes.
Ben, quand on parle des jeunes, c'est les gens de 50 ans et moins. Et encore, on a beaucoup de gens qui sont même en bas de 30 ans, qui vont avoir un cancer colorectal qui, bien souvent, va être assez fulgurant, va changer leur vie. Et les maladies digestives, c'est très large. On parle de cancer, mais ça va de maladies de Crohn, ça va des colites ulcéreuses, ça va à des colons irritables. Donc, c'est très large aussi. Mais quand on parle de cancer, où est-ce que là, on va traiter pour un cancer? Bien, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui peuvent expliquer pardon, qu'il y a des facteurs qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui, la génération X, hein, les gens de 50 ans, c'est la génération X, c'est ma génération, c'est ta génération, qui ont des cancers plus jeunes. Et une des raisons qui est souvent soulevée, et là, il y a des études de plus en plus véridiques qui vont venir appuyer ça, mais même sans être véridiques, à 100%, c'est que nous, la génération X, on a été la première génération à être soumis aux aliments ultra transformés. Nous, dans les années 70, c'est là où est-ce que tout ce qui est des additifs alimentaires, des nitrites, des charcuteries, des nitrites, nitrates, des carragénines, des lécithines de soya, les benzoates de sodium, les sulfites, les sulfates, et dans tout ce qu'on mange. Parce que je vais vous donner juste une définition. Puis vous allez me voir que dans une journée, là, manger une journée sans avoir goûté un aliment transformé ou ultra transformé comme moi, ça peut être difficile. Par définition, selon toi, Jordan, Mel, puis DH, c'est quoi un aliment transformé ou ultra transformé?
Jambon, salami, c'est quelque chose que...
Tu veux des exemples concrets?
Oui, des exemples. Que vous pensez que ça pourrait être, je mange ça...
Du goberge...
Ben, un petit poulet cuit, là. Oui. Y a-tu été injecté? Y a-tu...
Un aliment transformé, c'est un aliment où est-ce que l'être humain a changé sa saveur, a rajouté quelque chose qui va améliorer sa durée de vie ou ben, qui va changer son goût.
Fait que 99% des aliments que tu achètes à l'épicerie.
Ton poulet là, que tu manges, ben, qui
il a mis, on a mis des épices.
Ben, juste les épices, ben, tu sais, que tu n'as pas mis une panure, puis tu l'as mis dans l'huile, ces choses-là, ça, c'est un aliment qu'on appelle pas transformé. Du lait n'en est pas un. Du fromage est un aliment transformé parce qu'on l'a fermenté, il a changé de son apparence.
Du goût.
C'est un aliment transformé. Pas ultra transformé, mais transformé. Une seule transformation fait qu'il vire un yogourt. Okay. Quand tu fais plusieurs transformations, il va devenir ultra transformé. Donc, il a été manipulé une fois, une deuxième fois, et qu'on a fait cuire d'une manière, parce qu'on a rajouté d'autres types d'épices. Puis là, on finit toujours par rajouter des saveurs artificielles. L'autre jour, je voyais quelqu'un qui disait, moi, je suis végétarien. Ah, bravo. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui mange moins transformé? La réponse est tout à fait... Quelqu'un qui va manger juste des fruits et des légumes, puis un végétalien, on va peut-être plus de chance.
Non,
mais
ça.
Un végétarien qui dit, moi, je mange du tofu. Puis mon tofu, moi, j'ai pris un tofu qui goûte à General Tao. Ben, à la base, du tofu, c'est déjà un aliment transformé. Parce
qui
que
goûte à rien.
Goûte à rien.
Ouais, c'est du caoutchouc,
ça. Tout ce que tu mets pour qu'il goûte de quoi est un aliment transformé. Et là, tu le manges. Fait que là, je mange du tofu. Après ça, je vais manger un fromage XY single de Kraft. Après ça, je vais prendre un pain qui goûte telle affaire.
Mais mon cocombe là, que je prends, là, qui a une petite pellicule de plastique dessus, là.
Ça, c'est pas transformé.
Oui, mais ils n'ont pas mis les produits. Ils n'ont pas mis les produits anti-conservation là-dessus.
Un aliment biologique, mettons. Ouais. Donc, si on dit biologique, qui en principe n'a aucun pesticide ou antibiotique, peu importe, ce qui fait en sorte qu'on améliore sa croissance ou sa durabilité, c'est un aliment qu'on appelle de base. Donc, un aliment pas transformé.
Tu pourrais bien le nettoyer puis le consommer.
J'étais aux pommes hier. Arraché à la pomme, mais d'après moi, il y a des pesticides là-dessus. Là. Fait que c'est ça, c'est pas transformé, ça.
Ben, c'est transformé. Oui, je dirais transformé. Est-ce que c'est vraiment si tu le rinces comme il faut puis tu fais en sorte que les pesticides ne dépassent pas la plure?
Ouais.
Je pense qu'on est capable de dire que c'est pas un aliment transformé. Okay. Mais prenez juste oublions la génération X, prenons les baby boomers quand ils ont été jeunes, les gens qui sont nés en 1946-64, là où est-ce que les chips n'existaient quasiment pas, puis la liqueur, ces choses-là. Elles autres, là, la maman faisant manger, là, c'est souvent, on avait de la sédentarité alimentaire. Où est-ce qu'on mangeait toujours la même affaire?
Patates,
des navets, des carottes, on mange du porc, du steak, on va faire un pâté à viande. Il n'y avait rien de transformé là-dedans. T'sais, tu prenais ta poule, ta tuette, c'est toi qui l'avais nourrie, ta mange, ton porc, c'est pareil, ton bœuf, tes œufs. Tu savais qui l'avait touché, ça peut être transformé. Puis la recette que tu faisais, ben, tu ne rajoutais pas d'autres choses. Ce qui fait que les gens, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient pour garder leurs aliments frais? Mais soit qu'ils mettaient bien du sel dessus pour les conserver durant l'hiver, puisque le sel est un antibactérien, parce qu'on enlève l'eau de l'aliment pour le réhydrater après. Ou les gens faisaient des caniveaux à patates. Vous voyez ce qu'on mettait sous terre, parce que les congélateurs n'existaient pas. Et les gens, on vivait sans produits de conservation des aliments, et on nourrissait la famille.
Oui, mais tu mettais du beurre là-dedans. Le beurre, c'est transformé, ça?
Non, c'est pas transformé, parce que le beurre, en tant que tel, c'est la crème que tu vas juste fouetter. Donc, tu ne changes pas nécessairement l'ingrédient principal ou tu n'en rajoutes pas d'autre ou tu ne le fais pas transformer en mettant des bactéries qui veulent changer en autre chose. Comme un yogourt est un aliment pas ultra transformé, transformé. Donc, on voit
la margarine aussi.
La margarine, c'est ultra transformé.
Ouais,
c'est artificiel, la margarine, quand tu regardes comment c'est fait.
Ouais.
Mais ce que je veux dire, après cette définition de l'aliment ultra transformé, c'est le corps humain. T'sais, on sent que le côlon qui, lui, en tant que tel... C'est lui qui va, autrement dit, enlever le reste, qui va filtrer, qui va enlever le restant de l'eau que vous avez dans vos aliments pour vous déshydrater. C'est vos égouts en tant que tel. Mais si ce que vous mangez contient un paquet d'additifs alimentaires puis que votre corps n'a jamais été en contact, on sait que l'être humain, je le dis tout le temps, l'être humain est le seul animal terrestre qui se met d'autre chose que de l'air dans les poumons. Puis qui mange d'autres choses que juste de la viande, du poulet, des légumes à l'état pur, comme un animal frais généralement. Fait que le corps humain, lui, il n'est pas différent d'un animal. Fait que quand il rentre en contact avec un paquet de produits chimiques qui n'a jamais été en contact dans toute son existence, mais ça crée de l'inflammation au niveau de l'intestin. L'inflammation peut créer une mutation au niveau de l'irritation, une mutation au niveau génétique qui va faire une métastase, qui va créer un cancer à la longue d'être en contact depuis ta naissance avec des animaux transformés. Et c'est une cause qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes, parce qu'on est une génération, et encore aujourd'hui, les générations à venir, élevées dans des animaux ultra transformés.
Puis on y repense améliorant, Marc. Là.
Et de plus en plus transformés, parce que la Terre, autrement dit, il manque de la bouffe pour nourrir la Terre. On sait que cette année encore, là, je pense que les dates, on est rendu en juin. Là. Où est-ce qu'à partir de juin, la Terre, elle a épuisé toutes ses ressources
de l'année.
On est comme dans une dette de.
Ça suit les impôts qu'on paye.
On est rendu dans la marge de crédit.
On est rendu dans la marge de crédit qui fait que après 6 mois, tu dis ben là, j'ai plus assez de maïs, j'ai plus assez de patates. Fait que là, ce que tu fais, c'est là, tu vas rajouter des OGM pour faire en sorte que tu vas avoir un maïs qui va résister plus aux pesticides, qui va vous pousser plus vite. Après ça, tu vas surexploiter ta terre pour faire une ou deux ou trois cultures par année. Fait que tu vas rajouter un paquet de produits pour, dans ta terre pour faire que ça pousse plus vite. Donc, c'est toutes des choses qui font en sorte qu'on est loin de juste épandre du purin de porc là, ou du fumier là, pour faire que ça pousse. Là.
J'ai acheté des framboises il n'y a pas très longtemps au Costco. Mais là, c'est parce qu'il était. Pour moi, ils ont mis des stéroïdes dedans.
Ah, il était gros.
Des grosses framboises, pas naturelles. Ça m'a quasiment fait peur manger ça.
Bien, souvent, c'est hydroponique. Donc, quand tu fais des serres hydroponiques, bien souvent, tu vas avoir une framboise ou bien souvent, je sais pas, vous avez déjà goûté les raisins de la Californie ou les bleuets de la Californie. Là, c'est gros de même.
Oui. Mais est-ce que c'est tout aussi bon en termes de.
Non, mais
de
c'est ça.
C'est gorgé d'eau.
Souvent, c'est dans des serres hydroponiques. Bien, souvent, tu sais, c'est ce qui fait qu'il est gros. Fait que quand tu fais une serre hydroponique, c'est comme dans un incubateur. Tu n'as pas de facteur externe, tu n'as pas de soleil, tu fais pousser ça dans un milieu où est-ce que tu vois 100% des nutriments, tu n'auras pas de pesticides, rien qui va nuire à la croissance et que ça fait des fruits et légumes ultra gros
mais sont bons.
Qui goûtent à rien.
Ça
goûte à rien.
Les raisins ne sont pas très bons.
Non, hein?
Mais
non.
Même le bleuet là, qui est gros comme un raisin, là. Il goûte à rien.
C'est les petits les meilleurs.
Les petits surettes. Ben oui, ça c'est bon, ça a du goût. Le sucré, il est concentré. Donc, il n'est pas gonflé comme si on avait shooté de l'eau
pour un bleuet gros comme un ballon de basket pour ceux des questions. Là.
Donc, c'est sûr que le cancer colorectal est une des humains transformés et une des raisons qui fait que dès le jeune âge, le corps est exposé à des aliments qui n'ont jamais été exposés dans toute l'humanité, qui fait que notre corps réagit. C'est normal. Pour lui, c'est un corps étranger. Quand tu lui donnes des produits chimiques, je pourrais vous donner la liste. Regardez juste la liste d'un aliment transformé, là, les noms que vous ne connaissez pas. Dès qu'il y a un nom que vous nommez... Là,
dès qu'il y a 13
items... Là,
13 items et plus, plus que...
Et pourtant, ça goûte rien qu'une affaire, cette affaire-là. Puis il y a 13 items dedans. Là,
pour le cancer colorectal, je sais que les 40 ans et plus, on peut se prévenir d'un test préventif, gratuit.
Exactement. Puis, ce qu'on appelle Le FIT test, c'est un test biochimique qui permet de dépister le sang occulte fécal, qui fait qu'on le sang qui n'est pas visible à l'œil nu. Et à ce moment-là, c'est disponible dans les pharmacies, c'est gratuit. Parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre pharmacien pour éviter d'avance de le faire pour prévenir et dépister d'avance le cancer qui se guérit très bien en passant si on le dépiste de manière très précoce.
Quand on va se reparler, on va être quasiment à la fin d'octobre.
Ah oui?
Ça va être le 3e d'octobre.
Ça va vite.
C'est ça. Caroline, mais on parlera des autres sujets, là.
Oui. Il y en a plein. Merci beaucoup, Marc.
Fait plaisir.
Salut, bye.
Le retour de Radio X.
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.